Bonsoir, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Ce soir, nous abordons la psychanalyse. Psychanalyse aujourd'hui, avec plus particulièrement un sujet sur la parole. Pour ce faire, nous recevons Annie Ardin. Bonjour Annie.
Bonjour.
Psychanalyste.
Bonjour.
Pascal Bello-Fourcade, qui est psychiatre psychanalyste. Bonjour
pareil,
Pascal.
Oui. Voilà. Enfin, j'essaye.
Et nous avons deux candidats éclairés qui sont Catherine Brault, sans profession. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et Bruno Hébert, qui est architecte, notre bonjour. Grand Bruno.
Bonjour, grand, hein. Pas sûr. Mais...
voilà, alors je bon, sais que sûr. C'est Annie qui va diriger un peu ce débat, je vais lui laisser les rênes. Mais auparavant, avant de commencer véritablement ce débat, parce que moi je suis non pas le candidat éclairé, mais tout à fait complètement en dehors de tout ça, et j'aurais aimé qu'on fasse un petit peu le tour du sujet psychanalyse, psychiatre, et psychologue, juste pour nos auditeurs.
Oui, c'est vrai que souvent on dit vous êtes psy et on ne sait pas ce qu'il y a après, si c'est psychologue, psychanalyste ou psychiatre, on peut confondre. Et pourtant, ce n'est pas du tout dans les mêmes registres, bien que tous utilisent la parole. Donc je ne sais pas si Pascal a envie d'en dire quelque chose qui n'est pas tout à fait peut-être pour cette séparation, ce clivage un peu.
En ce qui concerne effectivement, puisqu'on vient de réduire d'un terme une nouveauté sémantique qui a l'air d'envahir le marché à l'heure actuelle, qui est le mot psychothérapeute. En revanche, que l'on puisse effectivement parler de psychologue, de psychiatre et de psychanalyste me semble tout à fait justifié. Je dois dire que, dans le sens où c'est une face sociale, c'est-à-dire que le psychologue a des diplômes à l'université de psychologie, le psychiatre est médecin puis fait une qualification en psychiatrie, et le psychanalyste, lui, effectivement, il est déjà un peu à part, un peu situé autrement. C'est-à-dire qu'un psychologue et un psychiatre peut être analyste, mais il y a surtout quelque chose qui me paraît extrêmement important et que Freud, qui vient pourtant de la médecine, de la neurologie, et on peut savoir que la psychanalyse s'est constituée à partir de cas, hein, de la clinique médicale et neurologique. Freud a fait un saut parcours, il est parti de chez Charcot. C'est un honneur pour nous d'avoir pu introduire en quelque sorte Freud sur quelque chose qui était tout à fait récusé, c'est-à-dire qu'on était offusqué de dire par exemple qu'un homme pouvait être hystérique. Et tout le travail de Charcot a été effectivement d'écrire sur l'hystérie masculine. À l'époque, c'était quelque chose mais qui était scandaleux de pouvoir attribuer à un homme l'étymologie du mot hystérie, c'est-à-dire l'utérus. Vous voyez, donc, ça a été un très grand chemin. On aura peut-être le temps de parler d'effectivement ce chemin extrêmement courageux de Freud, qui n'a pas hésité à remettre en cause une théorie parce que ça contredisait, un cas contredisait que, sur la question de la sexualité féminine, il a été d'un courage et d'un courage scientifique.
Comment ? D'une invention.
D'une invention et d'un courage scientifique incroyable. Hein, je veux dire, nous ne devons pas oublier que Freud a accepté de quitter Breuer comme ça, hein, parce que Breuer ne voulait pas entendre effectivement les déterminations sexuelles des névroses. Hein, je veux dire, il n'a pas hésité à quitter tout l'agora qui les applaudissait, parce qu'il y avait des amphis, il fallait applaudir, on applaudissait les monographies, hein, c'était comme ça que ça se faisait à l'époque, ça se fait beaucoup moins, il y a moins d'échanges à l'heure actuelle. Hein. On a plutôt des clones qui nous viennent des laboratoires américains comme article. Et donc, ce qui me paraît déjà très important par rapport au thème qu'on a avancé, j'ai un peu digressé, c'est que Freud a toujours voulu que la psychanalyse soit ce qu'il appelait laïque, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas à se soutenir des diplômes d'université, qu'effectivement, il ne demandait qu'une seule chose, c'est que pour être analyste, il fallait être analysé. C'est la seule.
Donc
c'est
la
point.
Formation n'est pas à l'université.
Voilà. Hein, elle n'est pas. Voilà.
Qu'est-ce qu'on entend par psychanalyse laïque? Comment on peut le situer? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour
dire que il faut faire une psychanalyse. Ça ne veut pas dire que l'on va être un peu dans un charlatanisme entre nous comme ça. Hein. C'est-à-dire que Freud a toujours situé que effectivement il fallait travailler, qu'il a avancé un corps théorique avec des concepts. Le premier, et ce qui fonde la psychanalyse, c'est la question du refoulement. Je veux dire, voilà, c'est ça qui fonde. Et qui fera d'ailleurs que dans toute l'histoire de la psychanalyse, il y aura des épigones qui vont te quitter, avec qui il va se fâcher. Et peut-être aussi pour certains, on est obligé de dire que la psychanalyse, dans le vif de son travail, avait un petit peu perdu effectivement son côté créateur et vif, ce tranchant, et que grâce à Jacques Lacan, on a pu reprendre effectivement, en modernisant, en reprenant les théories scientifiques de l'époque, reprendre cette question
du refoulement,
du refoulement et de la psychanalyse, mais toujours ça s'est articulé sur le fait que parler, eh bien, c'est la plus... on revient à Ésope, hein, c'est la meilleure et la pire des choses, hein, je veux dire. Voilà. Et donc, ça paraît très important, effectivement, que dans la mercantilisation actuelle du champ des jours et des plaisirs des humains, on reste sur cette catégorie que la psychanalyse, effectivement, a amené des concepts qui, d'ailleurs, ont irrigué complètement ce qu'il en est de la psychologie comme de la psychiatrie, en quelque sorte.
Alors, tu viens de dire quelque chose que je trouve intéressant, qu'on pourrait peut-être reprendre comme ça. Parler est la meilleure et la pire des choses. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples, ou comment tu entends, par exemple, la pire des choses ou la meilleure des choses? Qu'est-ce que parler? Qu'est-ce que fait la parole? Comment la parole vient être l'outil, presque, ce qu'utilise le psychanalyste et l'analyse en celui qui vient? Quel est l'effet par rapport au refoulement ou la pire des choses? Comment tu l'entends? Est-ce qu'actuellement, dans notre société, il y a des paroles comme ça qui peuvent être les pires ou...
Oui, c'est-à-dire que, faut comprendre, si tu es que... Travailler avec la parole, c'est modeste, hein, je veux dire. On pourrait déplier peut-être pour répondre qu'il y a trois choses, en quelque sorte. Au début était le verbe, le « wo es war, soll ich werden », qu'on traduit tout simplement « là où était le ça, le je viendra ». Et qu'est-ce que parler veut dire? Voilà, à peu près, qui nous donne un peu l'axe des choses. Et puis peut-être que finalement, si nous avançons dans la pire des choses, puisque c'est toujours le pire qui nous attend.
Hein. Tu l'as abordé comme ça, on peut peut-être parler de qu'est-ce que...
Il peut y avoir des paroles qui tuent, qui angoissent, qui liquident un sujet. Ça existe. Ne pas être... entendu et écouté peut être dévastateur pour quelqu'un qui tape derrière et qui voudrait bien être entendu dans un mot qu'on n'a pas rien dit là aujourd'hui, la vérité. Hein, parce que la psychanalyse met en place cette dimension de la vérité. Elle impose dans sa parole, il en ressort un sujet avec sa vérité, en quelque sorte. Voilà. Mais enfin, peut-être que ceux qui veulent bien nous écouter...
Bruno.
ceux qui veulent nous écouter... Sur la pire des choses, qu'est-ce que vous... C'est important de situer...
Oui, la pire des choses, moi j'entends ce que vous dites un peu comme la prédiction de la sorcière, c'est-à-dire la parole qui va vous prédire un sort, qui va prédire un destin, qui va vous détruire sur le plan narcissique, par exemple, qui va jeter à bas le peu d'image que vous avez de vous. J'entends bien ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des paroles qui, sans détruire, ne sont pas des paroles de vérité? C'est-à-dire des paroles comme on les connaît, mais y compris socialement, des paroles ressassantes,
qui occupent l'espace.
Des choses vides, pas simplement vides de sens, mais ressassantes, où on a le sentiment que quelqu'un construit un discours comme alibi. Comme alibi, un discours qui va occuper le terrain et qui va précisément lui permettre de ne pas aller du côté de la vérité. un discours en... Alors, je ne sais pas si on peut dire si c'est un discours en surface. Enfin, et j'imagine que les analystes ont à faire, comme n'importe lequel d'entre nous y a à faire, socialement, à ce type de...
Tout à fait, il peut y avoir ce type de parole-là. Il peut y avoir ce type de parole comme défense, hein, quand quelqu'un arrive, ou à certains moments où des sujets un peu plus vrais ne peuvent pas être abordés, on peut avoir à faire un discours comme ça, ressassant, dans un certain nombre de séances, ou des paroles qui sont des paroles d'attente d'autre chose, hein, qui meublent. Ça arrive aussi en analyse, mais ça sont des paroles transitoires. Hein, puisque la personne qui vient pour une séance, paye sa séance, en attend quelque chose, au bout d'un certain temps, cette parole va laisser place à autre chose, à une parole plus vraie, pour peu qu'elle soit interprétée et entendue, et qu'elle soit entendue comme justement prenant de l'espace, prenant du temps, en attente d'autre chose. Alors qu'il peut y avoir, je trouve, ces paroles-là, on peut les entendre dans certains... peut-être dans des journaux, dans des émissions, certaines émissions de télévision, voire de radio, des paroles comme ça, on a l'impression que ça ne sert à rien, que ça pourrait ne pas s'arrêter. Il n'y a pas d'attente derrière.
Ouais, ce qui me passe par la tête, comme ça, parce que j'entends souvent les gens, vous parlez de paroles. Alors pour les gens, effectivement, être psychanalysé, c'est... on parle, on parle, on parle. Très souvent, ils se demandent, mais est-ce qu'il y a vraiment une écoute de la part du psychanalyste? Et je me pose la question, si vous ne vous faites pas tester par vos patients?
On peut se faire tester, détester, des tas de choses comme ça. Mais oui, bien sûr, parce qu'ils peuvent avoir cette sensation-là. Pourquoi? Parce que, par ailleurs, ils ne sont pas écoutés. Or, par le transfert, ils vont nous mettre les mêmes qualités que ce qu'ils ont expérimenté jusque-là, ce qu'ils ont vécu jusque-là. C'est-à-dire, on va être, à certains moments, ces gens qui n'écoutent pas et qui sont un transfert d'autres expériences antérieures. Donc, c'est même une très bonne chose que ça leur arrive. L'important, c'est qu'ils puissent nous en parler. Vous ne m'écoutez pas, vous, etc. Vous ne faites pas votre travail, vous, etc. C'est à partir de là que quelque chose peut sortir de la répétition où ces gens-là ne sont pas écoutés ou n'étaient pas écoutés. Donc, que leur fantasme soit « mon analyste ne m'écoute pas » est très courant, je dirais. La différence, c'est qu'ils en principe, ils en parlent.
Je voulais vous poser à toutes les deux une question sur ce moment où quelqu'un en analyse prononce une phrase ou parle d'une situation, évoque quelque chose qu'il a déjà évoqué 100 fois dans sa vie et tout d'un coup il l'évoque autrement. Il est parfois submergé par l'émotion ou il entend autre chose. Est-ce que vous pourriez dire ce qui se passe à ce moment-là?
Je crois que ce que vous venez de pointer quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a trait à la répétition. C'est-à-dire que évidemment, ce que parler veut dire que l'on va pouvoir s'adresser et être entendu, et qu'on n'est pas entendu de la même manière. Et qu'un mot, par exemple, je vous donne un mot parce qu'il est sidérant, les talons de ma mère, j'entendais les talons de ma mère. Hein ? Tout d'un coup, un analyste, parce que c'était une image, un souvenir auditif répété de ce patient, qui pouvait... c'était une image sonore qui était là, le témoignage de quelque chose, par exemple, ou un souvenir, ou même qui revient comme une répétition. Et tout d'un coup, hop, c'est ouvert. Quelque chose s'ouvre. Hein. Et bon, effectivement, on peut l'entendre, vous l'avez tous entendu. Et on peut... L'intérêt de l'écoute par quelqu'un, je crois que ce qui est important, c'est de savoir que l'analyste, là, il est dans une position qui est très particulière, qu'on a pu dire celle d'un saint. C'est-à-dire que pour être vraiment un analyste, il va falloir se prêter à l'analysant. C'est ça qu'il faut entendre. C'est pas, il va se prêter à ce que l'analysant va pouvoir lui parler, lui dire tout ce qui lui passe par la tête, ou ses fantasmes, ou réarticuler les choses, et que tout d'un coup, quelque chose de cette répétition permanente du sujet qui n'a cessé de répéter son destin, ses mauvaises fées, dont vous avez tout à l'heure parlé. Hein. Il y en a de mauvaises, hein, comme ça, là, ce destin-là qui va se dérouler. Ça, c'est le cœur antique qui nous, déjà nous... nous a... Les prémices de la psychanalyse étaient bien sûr chez les Grecs. Hein.
Et ça aussi, je pense, tu vois, tous les enfants dont on dit, ah ben celui-là, il est bête, ou celui-là, il va faire ci,
bien
ou celui-là.
Sûr. Mais le jour de la naissance, ah ben tiens, celui-là, bah, il va ressembler à sa grand-mère, celle qu'on déteste, par exemple. Ou à tante Julie, qui était un peu folle. Vous voyez, enfin, et donc finalement, ce qui est important dans cette écoute, c'est d'ouvrir parfois ces répétitions qui sont l'aliénation même, et dans lequel, finalement, le sujet, malgré lui, s'engage, n'est-ce pas? Et ce que je crois qui est très important, c'est qu'il va falloir qu'un sujet, pour recouvrer sa vérité, se réapproprier son histoire, entende qu'il est bien plus parlé que parlant, et pour faire ce chemin de réappropriation. Hein, je dis voilà comme ça, et je crois que ça, et ça demande à l'analyste, si vous voulez, ça demande de ne pas jouer un jeu où on va se faire aimer ou à tout prix, ou quelqu'un par exemple, pour ma part, c'est pas quelqu'un, on va pas être le punching bag de quelqu'un. Parce que par rapport, par exemple, à des actes de violence répétés qui arrivent dans les séances, on va pouvoir répondre un petit peu autrement. Je dirais que ça, cette phrase est très importante, c'est-à-dire être écouté autrement que le concert social, que le concert familial, et que quelque chose d'une singularité, à partir de là, va pouvoir émerger. Et la parole, ça se travaille, ça s'écrit, hein, et c'est un travail... On dit d'ailleurs le travail dans l'analyse, c'est-à-dire que les mots, les concaténations, les signifiants, les mots qui vont s'aligner, eh bien, vont pouvoir reprendre, je dirais, une certaine vie, vous voyez, pour quelqu'un. Puisque quand ils étaient pris dans la répétition, ils étaient pris dans quelque chose qu'on peut dire, et ce que Freud a élaboré dans la deuxième partie de sa vie, dans la pulsion de mort. C'est-à-dire d'être figé, pétrifié, imposer un sujet, ce fameux destin, ces attitudes, cette impossibilité de se situer dans la vie, de trouver sa place. Enfin, voilà.
Ouais, moi, je présente souvent le travail de la psychanalyse comme avec la métaphore du livre. Chacun de nous a un livre et pour vivre le mieux possible, je dirais le plus librement possible, le mieux possible par rapport à lui, bien sûr, il faut pouvoir lire le livre. Or, dans ce livre, il y a des pages collées, des pages effacées, des pages déchirées. Et le travail de la psychanalyse va être de rendre lisible ce texte-là, où les pages sont collées, où les pages sont déchirées, où on n'a pas accès à certaines pages. Le texte entier devrait devenir disponible pour que l'analysant l'utilise comme il le veut, enfin, comme il en a l'idée.
Oui, c'est une belle métaphore. Elle a un petit peu sa limite, c'est-à-dire que c'est un livre qu'il s'agit d'écrire.
Oui, hein? De lire et d'écrire. C'est vrai,
il y a des sujets qui étaient effectivement entièrement des pages blanches ou des pages écrites, je dirais, par la jouissance d'un autre. Par l'autre, un autre maternel, un autre paternel ou fraternel même, qui avait, je dirais, coincé quelqu'un dans son expression.
Oui, et mais déjà, tu vois, il
j'aimerais
faut...
bien qu'il voilà. puisse, à ce moment-là, retrouver ben, son style. Quoi.
Voilà, mais il faut voilà. pouvoir le lire pour dire « c'était pas à moi, c'était écrit voilà. sur moi, mais ce n'est pas moi dont il s'agit. Moi, oui. moi je peux écrire autre chose à cette place-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une prédiction. »
Est-ce que vous diriez que le patient s'entend parfois pour la première fois parce que l'écoute qu'un analyste lui propose, enfin lui donne, elle est comme décalée par rapport à une écoute sociale? Peut-être c'est ça qu'il faut expliquer.
C'est-à-dire que au fur et à mesure on travaille ensemble, et le patient vous dit « Ah, oh, je savais bien que vous me diriez ça !» Et que effectivement, il rapporte quelque chose, mais que on va l'entendre. Alors, on a parlé de cette neutralité. Hein, toujours de l'analyste. C'est une chose sur laquelle je ne trouverai pas forcément mon habit à moi. Hein. Je veux dire, il m'apparaît dans notre société, dans l'évolution et dans la mutation actuelle des pathologies et de ce que nous voyons, parce que nous sommes dans un temps après freudien, enfin on en parlera sûrement, hein. On est vraiment après Freud, hein. Et je dirais que Freud a été dépassé, il n'en attendait pas autant, hein, avec un peu d'humour, on dirait ça. Voilà, Marx aussi d'ailleurs.
Oui, donc s'il est dépassé, on peut dire que quand même Lacan, en France en tout cas, a beaucoup, en relisant Freud et en introduisant d'autres concepts, d'autres manières de travailler la parole, a introduit autre chose et que nous sommes peut-être quand même dans un temps lacanien pour l'instant. Est-ce que tu le verrais comme ça ? Ou comment tu décrirais le temps dans lequel nous sommes maintenant ?
C'est-à-dire que Lacan se dit, il faut savoir, freudien, en ayant proposé une lecture de Freud. On repart sur ta question du livre.
Oui. Hein ?
Une lecture de Freud, c'est-à-dire qu'il a réintroduit la question de choses. Bon, il y a des choses qui sont très particulières de la question psychanalytique de la théorie, mais il a réagencé la question avec la question de la parole et du langage. Je veux dire, c'est-à-dire tous ces concepts de la linguistique qui n'étaient pas apparus du temps freudien. Freud s'est démené comme il a pu, et on voit bien quand il parle de la question de la pulsion mort, comment d'abord il n'est pas entendu, et comment avec un outillage, je dirais, épistémologique insuffisant, il a quand même réussi à arracher quelque chose, hein, à arracher quelque chose. Et je crois que Lacan a amené quelque chose de tout à fait fondamental, c'est-à-dire de situer la question du langage, c'est-à-dire l'inconscient
structuré comme un langage.
L'inconscient est structuré dans le langage, c'est-à-dire qu'il a parlé là du par-l'être, hein, et du sujet. C'est-à-dire qu'il a mis en place la question du sujet de l'inconscient.
Et peut-être par rapport à la parole, ce que je trouverais important aussi chez Lacan, c'est cette importance du mi-dire, du faire entendre, qui n'est pas forcément lié à la parole autant que ça, mais qu'est-ce qu'entend l'autre dans ce que je dis ?
C'est-à-dire que si tu veux dire, il a introduit, on peut dire une nouvelle formulation de la castration qui n'est pas édipienne, c'est que la vérité est à mi-dire.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne peut jamais, on est tous un peu castrés de ne pas tout vous, on ne peut pas tout dire.
Il reste toujours à dire.
Il reste à dire, mais même on ne peut pas, en un mot, tout dire du monde et de notre place et de notre... voilà. Et qu'on ait des sujets complètement divisés, complètement pris dans un impossible et dans des insatisfactions à pouvoir embrasser, je dirais, le tout du dire. Et donc, la vérité n'est là que est un mi-dire. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que... Elle va reprendre son image et qu'à aucun moment on va pouvoir, je dirais, on ne va pas se trouver comme à Delphes en quelque sorte. Ça ne va pas être une parole qui, par la vérité, va vous pétrifier. Tout d'un coup, cette parole delphique, là, la pitié, comme vous parliez tout à l'heure, là, elle va fossiliser le sujet. Au contraire, le jeu de cette vérité, de ce mi-dire, va permettre d'accompagner, en quelque sorte, la parole.
Et ce n'est plus parler, ce n'est plus se poser la question « qu'est-ce que ça veut dire ?» mais c'est se poser la question « qu'est-ce que je veux dire en disant ça à telle personne ?» puisque c'est adressé, et que ce que l'on dit à telle personne, on ne va pas forcément le dire à telle autre. Donc on se voit aussi dans nos contradictions de sujet. On n'est pas unique, on est selon à qui on s'adresse, on est selon les moments, et on n'est pas toujours sujet de nos paroles.
Mais qui en a la perception, là ? Est-ce que c'est vous ou c'est votre patient ?
Alors, ce qui est important par rapport à l'adresse que tu disais à l'heure actuelle, je crois que effectivement, cela permet à la psychanalyse d'être dans une position laïque, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de se référer à une religion, c'est-à-dire à un texte qui là serait préécrit, comme dans certaines religions, d'une façon ou d'une parole qui vient, qui est divine, en quelque sorte, et qu'on ne peut pas du tout ouvrir et couper, et que, effectivement, c'est une autre formulation d'un sujet qui n'a pas besoin de se référer forcément à Dieu, et qui, en s'adressant à quelqu'un, situe les dimensions de sa parole. Effectivement, vous l'avez vu là récemment, on n'a pas l'air de pouvoir s'adresser au président de la République de n'importe quelle manière. Et pour ma part, en tout cas en tant qu'analyste, je souscris tout à fait à cette position. Hein. C'est-à-dire que c'est la seule position qui va pouvoir tenir d'une façon laïque la question de l'inceste, hein, de la prohibition de l'inceste, pour ne pas en faire une position en quelque sorte. La prohibition de l'inceste, c'est parce que le bon Dieu nous l'interdirait en quelque sorte. Hein. Ça vient d'une loi divine. Mais c'est que effectivement, on ne peut pas s'adresser à une autorité, à sa mère, à son père, à un alter ego de n'importe quelle manière, jusqu'à l'insulte que l'on n'a pas le droit de...
On a l'impression que tout le monde peut tout dire à tout le monde sans tenir compte de l'autre.
C'est-à-dire que ça fait venir, si je peux me permettre, ça fait venir une dimension qui est que, au-delà de la relation duelle qu'on peut avoir avec quelqu'un, nous sommes déterminés, je dirais, par un lieu autre, c'est la parole à qui l'on s'adresse. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans la position du divan, Elle a été trouvée de façon tout à fait empirique et n'allons pas en faire trop d'histoire. Hein, je ne veux pas du tout de fioritures et de baroque là-dessus. Hein, toute la psychanalyse et Freud était quelqu'un d'extrêmement simple, d'extrêmement matérialiste, avançant pas à pas. Et c'était pour son agrément. Je l'ai relu tout à l'heure d'ailleurs. C'est parce qu'il ne supportait pas tellement bien d'être vu et surtout ce qu'il avait découvert dans l'hypnose. Que, effectivement, c'est comme ça qu'il a découvert le transfert, c'est qu'elle sortait de l'hypnose et qu'elle les prenait dans les bras, hein, en ayant recouvré un souvenir interdit, sexualisé. Et que Freud préférait donc être derrière et ne pas être vu. Mais cette position-là, qu'il a trouvée empiriquement, comme ça, permet de situer que quelqu'un, quand il parle, on est plusieurs quand on parle. On n'est pas que tout seul. C'est pour ça que le vouvoiement français est merveilleux, je dirais, dans la langue. On a une langue qui est structurée et qui le permet. C'est-à-dire qu'on est à plusieurs et qu'on a toujours cette référence autre pour s'adresser. Et je pense que ça, c'est la question de l'altérité et c'est la question qui va permettre qu'une certaine, je dirais, humanisation des personnes.
Que peut-on dire de l'angoisse de gens qui sont en analyse et qui en parlent un peu et qui disent que ce qui les met à mal, c'est le silence de leur analyste, ou de gens qui aimeraient bien aller en analyse en ayant le sentiment que c'est le moment pour eux et qui sont terrifiés à l'idée de se trouver devant le silence?
Alors ceux qui ne connaissent pas la psychanalyse et qui ont cette idée-là, c'est une défense par rapport à la démarche elle-même, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas l'expérience. Alors bon, par ailleurs, il y a des personnes en analyse qui adorent dire « mon psychanalyste ne parle pas ». Ça, une espèce comme ça, c'est on s'en plaint de son psychanalyste, alors on s'en plaint aux copains, aux copines, etc. Et les autres prennent les plaintes comme si c'était vrai, alors qu'ils n'en ont pas l'expérience. Mais c'est une manière aussi de se défendre, d'en entreprendre une et d'aller y voir, parce que c'est pas rien. C'est pas un voyage d'agrément. Il y a des moments difficiles, il y a des moments, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Je crois que c'est un des grands voyages actuellement que l'on peut faire, alors que au niveau géographique, le monde est entièrement explorer, mais au niveau de s'explorer soi-même par la parole, c'est toujours un voyage intéressant.
Oui, là-dessus, je voudrais un peu, effectivement, on a le droit de faire de la caricature, on a le droit à l'humour et des choses comme ça, et tout est passé sous ce crible-là. Je dois dire que, effectivement, un des grands moments de devenir un sujet... Là où c'était ça, je dois advenir, ce je qui doit parler, effectivement, c'est très difficile d'assumer le silence de l'autre et de se retrouver, je dirais, face à sa parole, parce que c'est cela. En revanche, j'irais dans le sens de ces craintes, hein, car nous savons qu'une certaine psychanalyste qui a voulu s'instituer, mettre sa cravate, c'est effectivement... En obéissant sottement, je dirais, à Freud, c'est tu. Il y a, pour ma part, des choses où, à l'heure actuelle, et surtout dans ce que nous rencontrons, dans les gens qui viennent nous voir actuellement, un silence qui n'est pas judicieux. Je pense qu'il n'est pas judicieux avec les adolescents, par exemple, qui sont des jeunes en grande souvent en souffrance, qui ont une difficulté. C'est toujours difficile, hein. J'avais 20 ans, je ne permettrai à personne de dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je crois que ça peut, cette parole de Nizan peut tout à fait se reprendre. C'est très difficile de se trouver tout d'un coup, de se mettre à son compte, parce que l'adolescence, c'est ça, hein. Alors, si par rapport à des jeunes qui sont là, on fait un silence de mort, vous voyez où nous adressons, nous mettons. Bon.
Encore que le silence du psychanalyste ne soit jamais, je trouve...
Alors, il y a des silences qui ont beaucoup de paroles également, hein, je veux dire. Il y a des silences qui ne sont pas très silencieux, voilà, on pourrait dire. Mais je dois dire que, effectivement, la psychanalyse évolue, les psychanalystes aussi, et qu'ils ont un certain temps d'inertie à modifier parfois des pratiques, je dirais, traditionnelles. Et qu'à l'heure actuelle, nous rencontrons des gens très très différents, comme le monde est très très différent d'il y a, je dirais par exemple, 15 ans. Et nous avons, Annie, tu iras dans le même sens, je n'ai pas du tout l'impression de pratiquer la psychanalyse de la même manière, puisque ça fait un peu plus de 30 ans que j'exerce, aujourd'hui qu'à mes débuts. Et pourtant, bon, on pourrait penser que je suis un peu plus chevronnée, je n'en sais rien, je ne suis pas sûre d'ailleurs, mais enfin, je pense qu'il faut garder cette modestie de toujours la surprise, la nouveauté.
Et, c'est vrai, mais il y a aussi pas forcément...
Mais enfin, ce silence, je crois que vous avez bien fait de poser cette question, parce que nous naissons dans un bain de paroles, hein, je veux dire, et cette neutralité silencieuse est très mensongère sur...
Oui, parce qu'on n'est pas voilà. Neutre. Et que par ailleurs, le silence, ça ne veut pas dire que l'on ne pense pas, puisque c'est le contraire. Enfin, je veux dire, on est silencieux, mais quelquefois, on est agité par plein d'idées, plein d'associations au sujet de ce qu'on entend. Et quelquefois même, ce qui est très étonnant, penser quelque chose suffisamment, d'une manière suffisamment forte, permet à celui qui est sur le divan d'en savoir quelque chose. On a cette impression comme ça, que je ne sais pas ce qui se passe en nous, mais c'est comme s'il entendait nos pensées. À condition que d'être pris dans une sorte de concentration silencieuse, c'est vrai, qui est quand il y a des paroles vraies sur... Ce qu'on en a abordé tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a une espèce de densité. Une densité, par exemple, d'un spectacle à un moment particulier. Alors, ce n'est pas un spectacle, bien sûr, mais il y a des moments où on est traversé par des tas de choses qui ne sont pas... Ce n'est pas homogène, notre écoute.
Oui,
et notre silence non plus, d'ailleurs.
Il y a une chose qui est... Bon, on fête les 100 ans de Dolto, là. Hein. J'ai eu la chance d'écouter Dolto à l'école freudienne, elle était accompagnante parce que ce silence, il est aussi parfois une ponctuation. Elle leur disait, bah aujourd'hui, bon, ça n'a pas été très bien, on n'a pas beaucoup parlé, bah ça sera mieux la prochaine fois, on travaillera. Vous voyez, c'est-à-dire que, bon, bien évidemment, les patients viennent pour parler de leurs paroles. Il faut prendre, d'ailleurs, on est obligé d'introduire par exemple cette question du temps, vous voyez. Hein, la temporalité de chacun est très importante à tenir en compte. Le temps n'est vraiment pas le même pour tout le monde. Et il faut pouvoir laisser le temps de chaque personne se dérouler et arriver à parfois sortir un mot. Alors, il ne faut pas laisser la personne dans le désespoir ou dans le désastre de ne pas avoir rien dit, hein, mais de savoir que finalement, retrouver sa parole, c'est très difficile. Hein, c'est un acte que c'est à valoriser, en quelque sorte. Voilà, donc je crois que ça peut être des ponctuations et qu'on n'a jamais à entendre la parole et le silence sans prendre en compte la question du temps pour quelqu'un. Voilà.
Alors, une des craintes, vous le savez aussi, de beaucoup de gens qui s'interrogent sur « je vais mal, est-ce que je commence une psychothérapie ou est-ce que je vais voir un analyste ?» La plupart des gens ont le sentiment que si c'est une psychothérapie, ça va durer peu de temps. Et si c'est une analyse, ils s'embarquent pour un temps très long. Donc je rebondis sur ce que vous disiez à propos du temps, du temps nécessaire. Voilà,
on est dans une société extrêmement marchande où il faut tout faire vite, dans l'immédiateté, on doit la jouir tout de suite, à tout prix, tout immédiat, sans intermédiaire. Bon, et qu'on devient rentable, je veux dire.
Mais c'est pas vrai que les psychanalystes sont forcément longs, d'une part. En particulier avec les enfants, où on peut avoir... en quelques séances, des résultats absolument étonnants, parce que l'enfant est là, pris dans le langage des parents qui nous disent quelque chose, etc. C'est tout à fait saisissant, d'ailleurs, hein, quand les parents voient qu'en quelques séances, pour des tout-petits, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et puis même pour des grands, hein, ça dépend tout à fait de... On ne sait jamais. Alors, la psychanalyse longue, c'est comme le psychanalyste qui ne parle pas. Il y a la psychanalyse longue, la psychanalyse chère, et le psychanalyste qui ne parle pas. Bon, c'est tous ceux qui ont envie de ne pas regarder ce qu'ils pourraient peut-être aborder, enfin, qui s'en défendent, et pourquoi
quand
pas.
Quand j'entends, j'ai l'impression de voir, tu vois, le programme marketing, tu sais, le programme d'une vente d'un objet, rapide, machin, tout ça, voilà. Hein. Évidemment, effectivement, on a l'impression que dans la société, l'objet gagne et que le sujet, celui que l'on malmène un petit peu d'ailleurs, qu'on contraint à devenir, par exemple, gestionnaire de lui-même, par exemple, vous allez gérer vos angoisses, par exemple, voilà ce qu'on dit, hein. On va gérer ses angoisses, voilà. Hein.
Avec les gestions actuelles, on peut être inquiet.
Alors évidemment, par exemple, ce qu'on a à se dire, c'est que quand quelqu'un fait un symptôme, une angoisse, un symptôme, nous avons à avant tout respecter ce qui l'amène. Ce n'est pas qu'il est déficient et qu'il devrait être normalisé et arriver dans un lissage pour que socialement il puisse devenir bien rentable et, ou avec des belles dents qui brillent. Mais de savoir que si, il y a une parole là qui est enchâssée. Hein, dans l'angoisse, le sujet, il n'a pas fait face. Alors, quand on lui dit de gérer son angoisse, excusez-moi, ça me fait beaucoup rire. Et je pense que c'est effectivement très irrespectueux de lancer ça. Alors, évidemment, on gère l'angoisse maintenant avec les médicaments, hein, et les traitements comportementalistes qui sont effectivement la robotisation et l'adaptabilisation des sujets à une société. Hein. C'est ça, la gestion de l'angoisse. C'est-à-dire qu'on voit bien comment c'est traiter les sujets comme des objets dans un marketing évolué. Mais un bout de symptôme pour quelqu'un, d'abord, dans la psychanalyse, on doit le temps, par exemple, eh bien... de faire advenir quel est le vrai symptôme d'un sujet. C'est pas parce que il va se dire, il va formuler d'une certaine manière sa plainte comme ça, d'une façon un peu naïve avec ce qu'il a dans la poche, que finalement il va arriver à un moment donné à formuler autrement son symptôme. Et c'est peut-être d'ailleurs ce travail-là qui va lui permettre à lui de se découvrir cette maïeutique qu'il y a dans la psychanalyse. Et c'est là où il y a, s'il a été pris dans des conflits, des contradictions, des choses qui n'appartiennent qu'à son histoire, qui sont là enchâssées dans ce symptôme, et qui là, effectivement, doivent se dénouer dans l'analyse. Ça sera au rythme où il pourra assumer cette vérité, ce conflit, vous comprenez ? Son image, son corps, vous comprenez ? Hein ? Comment il pourra l'accepter ? Et donc... Vous voyez, par exemple, ces sortes de psychanalyse rapide, hein, eh bien, pour certaines, ça fait des maladies psychosomatiques. Car il faut pouvoir attendre qu'une vérité, on ne peut pas l'interpréter comme ça, je dirais, en pleine gueule à quelqu'un. Bien sûr que...
Ça,
vous savez,
psychanalyse rapide, c'est autre chose.
Non, mais c'est dans ces soucis parfois de rapidité, on va effectivement balancer à quelqu'un sa vérité qui était criante et que lui ne voyait pas. Ça arrive hein, comme ça. Eh bien, on peut faire des choses extrêmement graves. On peut déclencher un délire. On peut déclencher une maladie psychosomatique. C'est pour ça que le respect du temps. Le respect du temps, du déroulement de la parole, hein, et de la réappropriation petit à petit, hein, je veux dire, est là quelque chose que notre société supporte moins bien. Hein. Avant, on ne supportait pas de dire que c'était la sexualité. Maintenant, la sexualité, elle nous déborde, on en a partout. Ça, c'est là où Freud a été dépassé, en quelque sorte.
Si
mais en revanche, on ne supporte pas le temps du sujet. Le temps des hommes, le temps des femmes, le temps des enfants. Quoi.
Oui, comme si on reprenait quand même le sexuel, comme ça, mis sur le devant de la scène par Freud, d'une manière presque pervertie, en en mettant de partout pour faire l'économie d'une analyse. Comme si dire le sexe, faire le sexe, montrer le sexe, allait libérer, hein, ce qu'on appelle les gens libérés, comme ça. Hein, ce qui est tout à fait une espèce de perversion de ce qui peut être le... Comment se modifie, se construit, se modifie dans la psychanalyse par la parole, par ce qui est découvert, par ce qui est non dit, par ce qui est tracé, dessiné, quelque chose justement autour de la sexualité, bien sûr, et de la sexualité. Mais c'est certainement pas ces langages extrêmement crus, extrêmement gênants, je trouve, que l'on entend un peu de partout dans les médias, quelquefois.
Vous avez dit tout à l'heure, Pascal, que les gens qui viennent en analyse maintenant ne viennent pas tout à fait dans les mêmes conditions qu'il y a 30 ans, par exemple. C'est ça où je vous ai mal entendu, je vous ai mal comprise.
Oui,
vous disiez qu'il y avait une modification des attentes.
Il y a surtout une modification. Enfin, moi, je t'interromps, excusez-moi, je réponds. Mais je trouve qu'il y a surtout, c'est pas les mêmes personnes qui demandent. C'est que quand même, la psychanalyse, on en parle. Les gens savent que cela existe et qu'il y a des demandes qui viennent de milieux sociaux, de professions complètement différentes qui n'existaient pas, ces demandes-là n'existaient pas il y a 30 ans. Où c'était plutôt un milieu éclairé, un milieu qui en avait entendu parler. Maintenant, on sait, enfin moi je sais qu'un certain nombre de personnes demandent, mais est-ce que vous êtes bien psychanalyste, pas psychothérapeute justement, et que ça commence à se savoir qu'il y a une vraie différence. Et moi, c'est là que je dirais la différence.
Oui, je prends ça dans un autre axe. Puisqu'on parle d'analyste, je conseillerais que, justement, pour répondre à votre question, de lire L'homme sans gravité de Charles Mellement. C'est-à-dire qu'il dit, il situe bien que les sujets à l'heure actuelle, ils n'ont plus cette pesanteur et cette gravité. Et que le jouir sans entrave, la libération, on va en parler de la libération, hein, effectivement, un peu, les impératifs sociaux ont changé les sujets. Chaque société n'a pas, nous faisons dans la littérature, nous voyons bien que les époques ont un tissage, une consistance très différente d'une époque à une autre. Hein. On voit bien, quand on travaille, comment est advenue la Révolution française. On sait même que c'est pas le discours libertaire qui a fait venir la Révolution française, ce qu'on pourrait croire, mais ce n'est pas vrai. Enfin, il y a toute cette dimension qui est à prendre. Nous n'avons plus de régicide. Vous comprenez bien. Voilà. Bon, on a une autre façon, puisque notre maire, Monsieur Delanoë, a été attaqué pour ses positions sexuelles. Bon. Mais si vous voulez, la folie, n'ayons pas peur de le dire, n'ayons plus peur de ce mot qui doit disparaître. La folie est humaine, elle est la vésanie, c'est très beau mot qu'on n'utilise plus, elle change, elle se manifeste différemment. L'hystérie freudienne, je dirais, je serais très contente de retrouver les belles hystériques d'antan, parce que l'hystérie, effectivement...
Comment ? Moi pas.
On vous a très peu entendu, monsieur Hébert, jusqu'à présent. Est-ce qu'il y aurait comme ça des paroles, en nous entendant comme ça toutes, je me disais, est-ce qu'il y aurait des paroles qui seraient des paroles de femmes et des paroles d'hommes
Bon, pour reprendre mon propos, si vous voulez, on voit bien qu'à l'heure actuelle, avec des impositions différentes de la société, nous avons des troubles différents. Hein ? Une des grandes évolutions, par exemple, de notre société, c'est l'évolution addictive et toxicomaniaque, qui est effectivement soutenue par une économie marchande et libérale dont nous voyons quelques difficultés dans sa persistance à l'heure actuelle. Hein. D'ailleurs, d'une certaine manière, en tant qu'analyste, je suis assez contente de cette crise qui va, malheureusement, d'un certain côté, entraîner peut-être beaucoup de souffrance, et ça me chagrine. Mais justement, dans ce côté du tout faire, du tout possible, à tout moment, en quelque sorte. Ils se sont permis de tout faire, n'importe comment, sans plus aucunement la question de la loi, en quelque sorte, d'être référé à une loi. C'est pour ça que je voulais revenir sur la liberté.
Moi, je ne suis pas...
C'est un paradoxe, hein, quand je dis que je veux dire...
Je trouve que la crise a sans doute un bénéfice, c'est-à-dire de ralentir un peu le temps. Oui.
Oui, oui. Moi, je dirais que la crise, contrairement à ce que vous dites, elle est dévastatrice dans le sens où elle va tout permettre. C'est parce que justement en période de crise que tout est possible. Alors que quand c'est pas la crise, les choses sont bornées, normées, encadrées sur des rails.
On peut pas dire que la finance a été bornée et encadrée
justement,
suffisamment.
Justement, elle l'était peut-être pas suffisamment, mais qu'elle soit en crise va justement permettre plein d'autres
actuellement,
choses.
Actuellement, n'importe comment, si on parle de la crise économique actuelle, parce que je crois que c'est de ça dont on parle. Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en enrichir.
Tout à fait, et qui vont changer,
Je voulais dire n'avait rien à voir avec ça. Je voulais dire que finalement, un système qui s'était dévoyé, qui avait abusé en quelque sorte, actuellement d'ailleurs, on va pouvoir en parler. D'une certaine manière.
Mais alors moi, je voulais poser la question, parce qu'on parle de la crise et autres.
Enfin, c'était une image. Hein.
Par rapport au monde entier, on dit que les Français sont les plus addictifs aux psychotropes.
Oui.
Alors pourquoi? Parce qu'on n'était quand même pas dans un monde hyper libéral en France. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce système-là?
Non, c'est-à-dire que les gens ne sont pas plus addictifs en France, ils consomment plus de médicaments, ce qui est une consommation légale par la voie médicale, en quelque sorte. Hein. C'est une question qui serait un petit peu lourde. Enfin, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les médecins et les consultations de médecins sont embouteillées. Et dans une réponse aussi qui, vous comprenez, va tout de suite vous faire comprendre de ce dont il s'agit. Ah docteur, mon chef, il y a beaucoup de harcèlement, c'est pas une question. Bon, ça ne va pas bien, il suffit que quelqu'un verse une petite larme pour qu'on lui fasse un diagnostic de dépression. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, puisque on parle de ça, vous savez bien que le gouvernement a lancé dans tous les domaines, à la télévision, dans les pharmacies, sur Internet, le repérage de la dépression. Alors évidemment, je dirais, ça c'est comme toutes les pubs, c'est incitatif, n'est-ce pas ? Hein ? Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas un travail à faire. Je dirais qu'il y aurait eu un travail à faire plus de fond sur effectivement l'information sur ces... Mais qu'est-ce qui est fait en retour? C'est-à-dire qu'on demande aux praticiens, à l'heure actuelle, dans les protocoles donnés par l'HAS, en première intention, vous donnez un antidépresseur et ensuite, si ça ne marche pas, vous envoyez... Eux, ils disent aux psychothérapeutes, aux psychiatres, aux psychologues. Voilà. Hein ? Donc, vous voyez ce pouce très, très paradoxal. À la fois, le gouvernement veut repérer dans une médicalisation des populations, mais qui est aussi bienveillante. Et donc, il y a à faire des choses. Je veux dire, je pense que c'est important qu'effectivement, quelqu'un dans une province, s'aperçoive qu'un autre ne va pas bien, soit déprimé, qu'on arrive à le repérer, à pouvoir l'aider. Je suis tout à fait d'accord. Mais immédiatement, en France, on est tombé dans ce processus de prescription. À l'heure actuelle, la réponse, l'imposition, l'incitation de la réponse médicale est scientifique, puisque ce que l'on voudrait, effectivement, c'est avoir une réponse scientifique sur toutes les questions des sujets, sur le bonheur. Vous avez bien vu qu'on a lancé la pilule du bonheur, le Prozac. Voilà. Qui quand même, faut quand même le savoir, comme tous les antidépresseurs qui sont lancés sur le produit, ne marche pas plus qu'à l'effet placebo. Voilà. Hein ?
Je croyais que c'était le Viagra, la pilule du bonheur.
Donc, on voudrait tous répondre. C'est normal que dans le progrès, tout le monde en a toujours voulu répondre des malheurs des gens, trouver l'élixir d'amour, trouver le bonheur, et toujours. Hein. Alors, c'est vrai que pendant un certain temps, la religion a répondu aux attentes et aux questions, aux douleurs fondamentales des humains. À l'heure actuelle, on attend que la science le fasse, et le fasse dans l'immédiateté, n'est-ce pas ? Je veux dire, il y a des débats très importants sur l'euthanasie, qui posent vraiment des questions anthropologiques, je veux dire, fondamentales, en quelque sorte, je veux dire... Voilà. Et que l'on veut répondre, et on va répondre par un acte scientifique. Ce qui est une responsabilité, je veux dire, de la société. Et je crois que Annie sera d'accord avec moi. Nous, les analystes, Freud, en découvrant le refoulement et le transfert, nous a donné une grande responsabilité dans la société. Et c'est vraiment... C'est-à-dire la responsabilité de faire que les sujets parlent encore. Et ça va un petit peu se situer par eux-mêmes, n'est-ce pas ? Hein, voilà.
C'est là, effectivement, où bon, on peut rejoindre notre travail, que moi, je vois beaucoup moins que toi, le rapport de la société et de la psychanalyse. Je suis beaucoup plus, si tu veux, dans le... Bon, on vient me faire une demande, quelqu'un a envie de faire ce travail-là. Je le lis beaucoup moins que toi à la société et à une réponse ou une...
C'est que c'était pas lié, c'est-à-dire oui, que oui. Je dis que nous avons des pathologies, parce que quand même la psychanalyse s'est constituée pour le traitement des névroses.
Oui, c'est ça.
Je veux dire, on peut... Et donc, on voit... Tu es bien d'accord que, par exemple, à l'heure actuelle, le symptôme de l'hystérie est plutôt celui de la dépression.
Oui.
Hein ? C'est une des expressions, parce que... une des expressions. Nous ne voyons plus de paralysie hystérique. Très, très peu. Très rarement. Très rarement. Très, très rarement. C'était, lisons Freud... sur l'hystérie, son premier livre, il s'agit de ça.
Il y a une transformation des symptomatologies.
Voilà, de la symptomatologie que nous avons à accompagner, et que nous avons à accompagner, à décoder et à savoir évoluer. La question addictive...
La place des femmes, féminité a évolué énormément aussi.
Évidemment. Par exemple, tu sais bien que nous avons toutes les deux travaillé sur les anorexies boulimies. La question de l'anorexie, de tout temps, il y a eu des anorexies. L'Église s'en était emparée, c'était adulé, fanatisé, nous avons eu des mystiques, là. Enfin, bon, on a eu tout un... Il y a une histoire de l'anorexie. À l'heure actuelle, il faut savoir que 10% des jeunes filles sont anorexiques et que 1% meurt. Je dois dire que quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans un champ médical où je pouvais, psychiatrique, en recevoir. On n'en recevait pas beaucoup.
Oui, alors
bon,
là,
alors ça, c'est ça l'évolution des pathologies.
Oui, alors peut-être que là, et parce qu'on va bientôt avoir fini notre débat, là, je pensais qu'on pouvait peut-être là parler effectivement de la question de la relation de la parole et de l'image. Parce que l'anorexique, il y a la question de l'image. Entre autres, dans ces 10%, alors qu'avant, c'était beaucoup, il y en avait beaucoup moins, il y a quelle image faut-il avoir pour, enfin, tu vois, la féminité, l'image.
Je crois que l'image est quand même dans... Quand tu parles d'image par rapport à la société, c'est peut-être aussi cette période où la parole n'a plus de poids et qu'il n'y a que l'image. Donc l'image est la seule chose qu'on peut encore agir, transformer facilement. Alors que la parole se perd dans le flot de paroles qui nous envahit de partout et qui veut rien dire. Il y avait moi une phrase que j'avais depuis tout à l'heure, mais qui est peut-être liée un peu à mon métier, ma pratique, c'est quand j'étais enfant à l'école, on disait un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Donc c'était quelque chose qu'on nous donnait comme ça, un peu brut, comme si on savait enfin, dessiner, on savait pas dessiner. Donc on nous disait ça,
oui, encore que
ce qui était très étrange.
Et je crois que c'est ça où la psychanalyse là peut intervenir, c'est qu'il n'y a pas d'image qui ne soit pas des mots, qui ne soit pas... Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas faire une image si vous n'avez pas de mots. Un enfant qui est sourd-muet, c'est très clair. Hein. Il n'y a pas de possibilité d'image. C'est-à-dire que la question de l'image est effectivement une question enchâssée de la parole. Nous sommes dans une société de capture par l'image, de capture de stérilisation et de pétrification de la parole dans l'image, qui va vous situer et qui va vous désubjectiver. En revanche, il n'y a pas de possibilité d'image, même pour la question du rêve, hein, qui ne soit pas des mots. Et c'est ça que Freud a amené. C'est-à-dire que dans la trame de Tung, la signification des rêves, il de toutes ces images du rêve, c'est un texte. Et c'est un texte qui est analysé comme des hiéroglyphes. Hein, je veux dire. Et ça, ce sont des mots.
Ouais, c'est quand même pas anodin que les premières écritures étaient des images et non pas des... Justement, l'hiéroglyphe, toutes ces premières écritures, c'était des images au départ.
C'est la question de l'écriture, c'est pas la question du rapport de l'image et de la parole, hein, et des mots. C'est-à-dire qu'on est dans un champ de l'écriture. Je veux bien, mais bon, on peut parler de l'écriture, je suis tout à fait d'accord d'en parler, j'aime beaucoup. Mais on a d'abord commencé à écrire pour compter, hein, je veux dire déjà, pour inscrire, pour faire une marque. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, une autre dimension.
Des stocks.
Voilà, une autre dimension de la parole, c'est peut-être ça que nous a amené Lacan, c'est qu'une autre dimension de la parole est celle de l'écriture. Voilà, hein, je veux dire.
Alors, et ce qui est étonnant, juste pour finir, c'est quand même, pour reprendre la question de l'anorexique, les anorexiques écrivent beaucoup. Donc, bon, ça serait presque une question, tout ça.
C'est pas mal.
Ou peut-être d'aller sur notre site où nous avons déjà parlé d'anorexie, ou de la prochaine publication.
Quel est votre site? Je le mettrai sur Internet, mais dites-le.
C'est freud-lacan.com.
Eh bien, merci à vous tous d'être venus. Moi, je vous propose aussi de se retrouver pour une prochaine émission sous l'égide d'Annie. Bien, merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Catherine, merci Pascal, merci Annie. Ici c'était Autre Radio, Autre Culture. À très bientôt. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.